Vous êtes sur RTL. Sur RTL.
Merci Christelle et à demain. La question, une des questions du jour. Soutenez-vous la nouvelle tribune de militaires? Est-ce que vous allez la signer? Je disais tout à l'heure qu'elle était plus rude, en tout cas plus virulente que la tribune qu'avaient signée les généraux en retraite il y a de cela quelques jours. Nous sommes avec Raphaël. Bonjour Raphaël, rebonjour.
Bonjour, bonjour Pascal.
Est-ce que vous partagez mon avis que cette tribune est plus virulente que celle des généraux en retraite?
Absolument, absolument. Elle est beaucoup plus virulente. Elle est une défiance totale au pouvoir en place. Elle est une crise de confiance habite vraiment les gens qu'on signait. Mais ils sont peu nombreux, dit-on. Mais peu importe la quantité, je trouve que ça fait 2 pétitions en un mois. C'est beaucoup. Il y a une défiance incontestable envers le pouvoir en place, hein, qui date peut-être du fait que monsieur Macron avait limogé le général de Villiers. Hein. Ça a beaucoup choqué. Donc les militaires sont dans la défiance. Les policiers n'ont pas confiance ou plus beaucoup confiance. Les gendarmes, ça fait beaucoup. Les échos viennent de partout. Ça bouge beaucoup, ça conteste beaucoup. Et je crois que le pouvoir en place doit faire très attention. On n'a jamais vu ça depuis 61, on l'a dit pour les généraux. En 61, il n'y avait jamais eu ça. Il n'y avait jamais eu des gens d'actifs. Donc c'est mieux, mais il n'est pas de Gaulle qui veut. C'est surtout ça qui m'embête, moi.
Alors, tout le monde n'a pas lu, évidemment, cette tribune. Je vais vous lire quelques passages. Il est écrit ceci. « Presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance. Nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses pour qui la France ne signifie rien, rien qu'un objet de sarcasme, de mépris et de haine. » Mais vous-même, je ne sais pas où vous habitez d'ailleurs, Raphaël.
À Clermont-Ferrand, et bon. Il y a dans la banlieue de Clermont des choses qui se passent, donc on ne dit rien, surtout pas de bruit, mais il y a aussi des choses qui se passent.
Mais est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a des Français qui pour qui précisément la France ne signifie rien? Parce que la difficulté de ces sujets-là, c'est attention à la généralisation, qu'il y ait quelques personnes, qu'il y ait des foyers, qu'il y ait, pourquoi pas même des quartiers, mais la difficulté, c'est de vouloir généraliser et donc de montrer du doigt une communauté. Vous voyez, avec le risque qui peut exister.
Tout à fait. Je suis tellement d'accord sur le fond que, pour ne rien vous cacher, je l'ai signée, cette pétition. Voilà. Comme j'avais signé la première. Parce que c'est pas montrer du doigt. Ce sont les gens qui vivent dans des banlieues. On voit ça tous les jours sur les antennes radio. On voit ça sur les...
Certains. Vous dites quand les gens... Moi, si vous voulez, le sentiment que j'ai, c'est que ceux qui vivent dans les banlieues sont précisément les premières victimes de ceux qui ne souhaitent pas s'intégrer peut-être dans la République, ou en tout cas sont en sécession avec notre modèle, en sécession avec notre modèle.
Ces gens des banlieues qui subissent, ils subissent deux fois. Ils subissent par des dégradations, des vols, des brûlures de voitures, etc. Et ils subissent parce qu'ils ont interdiction de parler. Regardez la télé, ils sont masqués, on ne les voit pas. Double peine. Je subis les violences, je subis les délinquants, je subis les crimes et je subis la censure de ces racailles qui peuplent les banlieues et qui sont le cancer de notre société, il faut le dire. La France a un cancer et pour se soigner, c'est compliqué.
Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Voilà ce qu'écrivent encore les militaires. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux. Alors ça, c'est une autre partie de la tribune lorsque ces militaires d'actifs s'adressent à l'exécutif et reproche à l'exécutif d'avoir maltraité les généraux en retraite. Donc je répète la phrase, ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance.
Et oui, mais vous savez, je pense vraiment que le mal vient de ce que je vous disais tout à l'heure, un certain 14 juillet ou un 13 juillet exactement, où Emmanuel Macron, pour des broutilles, excusez-moi, a limogé le général de Villiers. Toute l'armée était choquée.
Vous croyez que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui où effectivement on voit les difficultés qui existent, que vous avez rappelées d'ailleurs.
C'est multifactoriel. Mais ce que le gouvernement en place ne se rend pas compte, c'est qu'il y a contestation de l'armée, de la base jusqu'en haut, de la police, parce que les policiers
et de
la gendarmerie.
Oui, et de la population. Parce que cette tribune, elle est partagée, on l'a vu d'ailleurs, il y a un sondage qui était sorti, je crois, par plus de 60% des gens qui partagent cette analyse. C'est ça moi j'ai été très étonné, on l'avait dit, de la réaction de l'exécutif. Parce que plutôt qu'attaquer le raisonneur, il faudrait s'interroger au raisonnement. Et cette attaque de l'exécutif est prise pour un déni de la réalité qui est mise en place dans cette tribune. Bah, merci en tout cas, Raphaël.
Bon courage, merci à vous.
Vous êtes prof de droit, Clermont-Ferrand ?
Eh oui, bon. Absolument. Absolument. Bon.
Et alors, c'est compliqué ou c'est facile en amphi ?
C'est compliqué parce que dans les amphis, les jeunes sont polarisés sur le Covid, bien sûr, ouais. sur leur avenir, des diplômes dépréciés, mais sur la réalité de ce qui se passe, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de jeunes qui en ont ras-le-bol. Je vous garantis que c'est vrai. Je fais des tests assez souvent, l'insécurité, ils en ont assez.
Et c'est vrai que d'ailleurs, et souvent ils rejoignent parfois le Rassemblement National, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans par exemple.
Ils ont deux solutions, il y a deux attitudes, abstention, et il y en aura, ou Rassemblement National, voilà.
Bah merci beaucoup Raphaël, vous étiez le premier auditeur, je salue Greg Caranoni, le 10 mai 80 évidemment vous n'étiez pas né, Greg Caranoni.
Non, j'avais moins de 2 ans.
C'est un jour tellement particulier pour ceux qui l'ont vécu. C'est un jour de grâce et puis parfois aussi de tristesse pour d'autres. Donc, ça serait bien de nous replonger dans l'atmosphère du 10 mai 81 et d'avoir des témoignages. Par exemple, vous savez qu'il y a des gens qui pleuraient, qui n'avaient pas vu la gauche au pouvoir depuis 36. Pierre Mendès France, par exemple, qui était encore vivant en 81, le jour de la passation des pouvoirs, il pleure, l'ancien président du Conseil, devant François Mitterrand. Donc, c'est une journée très particulière. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier est là. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Soutenez-vous la nouvelle tribune de militaires d'Active. Il s'agit de la survie de notre pays, votre pays, écrivent les auteurs. Oui, de nouveau, la guerre civile couve en France et vous le savez parfaitement. Ces militaires ont-ils raison de prendre la parole ? Faut-il les écouter ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas caché sa colère ce matin chez nos confrères de BF.
Il s'agit de gens anonymes. C'est ça le courage d'être anonyme. Quand on veut faire de la politique, on se présente aux élections. Et en démocratie, n'en déplaise à certains militaires, c'est les gens qui décident. Entre Dupont et Duchemol, hein. Et puis il vote pour Dupont, et puis Duchemol, il accepte sa défaite. Et quand on n'est pas content de Dupont, on le bat aux élections et on élit Duchemol. C'est ça le courage d'être anonyme. Quand on veut être courageux, on donne son nom. Je crois savoir, parce que j'ai eu beaucoup de militaires dans ma famille, que quand on est militaire, on fait pas ce genre de choses en cachette à la petite semaine.
Ces militaires ont raison de lancer cette tribune, écrit Jean-Philippe sur la page Facebook de l'émission. Le pays part en cacahuète depuis 40 ans, c'est de pire en pire. Soutien à ces soldats, lance Christine qui se soucie de l'avenir de la France. Bravo à tous ces courageux, nous dit encore Evelyne. Même avis pour Gab, ces hommes, ces femmes risquent leur vie pour nous. La moindre des choses, c'est de lire ce qu'ils ont à nous dire. Mais Marion se dit gênée par cette tribune. Est-ce vraiment leur rôle ? Je m'interroge encore.
Laurent est avec nous et on va l'interroger. C'est un ancien sergent, il a 56 ans, il habite l'Eure-et-Loir. Vous l'avez lu à cette tribune, Laurent ?
J'étais dessus, mon cher Pascal, j'avais demandé bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs, oui, tout à fait. Et j'avais demandé à mon épouse de me l'imprimer pour pouvoir lire ça à tête reposée ce soir. Voilà, au fond de mon lit, tranquillement, et à tête reposée. J'ai eu les principaux tenants et aboutissants, j'en ai lu une certaine partie pour l'instant, donc je... Mais ça rejoint, nous nous sommes parlé au moment de la tribune des généraux de réserve, si on peut dire. Et je vous avais dit, bon, je ne suis pas d'accord sur le fond parce que c'est un sacerdoce et donc on s'engage au devoir de réserve. C'est un non-dit quand on rentre dans l'armée. Mais je vous avais dit également, bon, une fois qu'on a jugé, moi je vous avais dit peine pour ce, enfin, pas des peines, mais des sanctions pour les gens qui avaient parlé. Mais une fois qu'on a dit ça, sur le fond, j'étais assez d'accord. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a parlé de la polémique, on a plus parlé de la polémique que du fond. Et je pense que là, nos gens d'actifs se sont dit exactement la même chose que ce que je pense.
Ben, ce qui me surprend, c'est la réaction qui est toujours aussi violente d'ailleurs de la part de Gérald Darmanin, qui dit une phrase quand même étonnante. Il dit « quand on est militaire, on ne fait pas ça ».
Voilà,
ils sont,
ben ça
sont militaires, quoi. C'est ça qui me... Je trouve que c'est... Mais en même temps, sans doute, ne peuvent-ils pas faire autrement que de...
À un moment, quand la coupe est pleine, la coupe est pleine.
Oui, j'entends bien.
Il y a un moment où il faut quand même.
Mais vous connaissez, pardonnez-moi, vous connaissez des militaires d'actifs, vous, aujourd'hui ?
Oui, j'en connais encore. Oui,
bon,
encore
alors, évidemment, ça, oui. Bon, ça n'a pas de. Comment dire, ça ne peut pas être une preuve, forcément, puisque c'est quelques militaires, etc. Vous pensez que les militaires partagent cette tribune ?
Bah écoutez, moi, j'avais dit que je ne le dirais pas. J'ai dans ma clientèle quelqu'un qui a fait un très beau parcours. qui... Ah, je ne sais pas comment vous le dire, parce que je ne suis pas censé être au courant. Quelqu'un qui est parti en opération, qui normalement, quand il rentrait, avait les étoiles, c'est-à-dire qu'il montait général, et je lui ai dit, donc, la prochaine fois qu'on se voit, je vous appelle mon général. Il m'a dit, non, on n'est plus couvert du tout, donc la prochaine fois qu'on se revoit, ce sera monsieur, parce que je vais chercher un poste dans le civil.
Mais et vous pourtant, venez de dire ma clientèle...
Et pourtant, mon but au départ était de servir. Ce sont ses propres mots.
Vous venez de dire ma clientèle, c'est-à-dire vous faites...
Vous savez dans quelle partie je suis. Nous sommes restés... je vous ai envoyé un mail, plusieurs mails récemment à titre privé, parce que sur l'antenne...
Ah bah oui, mais alors là, moi je sais... Bon, vous voyez, on est dans la transparence la plus complète à RDL. Je ne sais pas qui vous êtes.
Je suis artisan, je fais de la restauration d'objets anciens. Nous nous sommes parlé sur le Premier Empire récemment.
Ah d'accord.
Voilà, donc je vous ai adressé un mail à titre privé pour m'excuser de mon comportement, enfin de ma façon évasive de vous traiter sur un certain sujet récemment. Et je vous avais dit que si un jour vous rentriez à l'Académie française, je vous ferai votre épée. Vous voyez, je ne suis pas...
L'auditeur est témoin que cette émission se passe en direct et évidemment que je ne sais pas définition qui va intervenir. En tout cas, merci Laurent de ce témoignage.
Si vous voulez, quand vous entendez ce genre de réflexion, vous vous dites qu'il y a un souci.
Milo est avec nous. Voilà un joli prénom. Milo, qui est militaire. Bonjour Milo.
Bonjour Pascal.
Vous habitez à Bordeaux.
Oui, non, je suis à Bordeaux en ce moment.
Êtes militaire vous-même?
Oui, je suis militaire d'active. Je suis militaire d'active. Bon. J'ai un collègue qui a signé là tout à l'heure. J'ai eu un de vos collaborateurs qui m'a appelé. Il m'a appelé. J'ai appelé un collègue pour savoir si lui avait fait ça. Il m'a dit oui. La question toute bête que je lui ai posée, c'est pour quelle raison? Quel est ton motif? Quelle est la raison? Et il m'a dit clairement, on a reçu un ordre de le faire pour que les civils... C'est exactement les mots qu'il m'a dit. J'ai pas besoin d'inventer. Ça ne sert strictement à rien. C'est pour que les civils nous suivent et disent si les militaires sont contre l'État, nous aussi nous le serons. Il ne faut pas que notre président à ce jour repasse président l'année prochaine.
C'est-à-dire que c'est la motivation de sa signature.
C'est la motivation de sa signature.
Donc pour vous, c'est pas tant l'analyse qu'il fait de la société que de vouloir entrer en conflit avec Macron.
Ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de plus voir le président actuel président. C'est tout. Et je lui dis, mais pourquoi? Quelle est la raison? Il m'a dit, regarde combien il y a de Front National au niveau de l'armée. Il y en a énormément. Qui en ont marre d'aller dans des pays comme le Mali pour se faire, pour se faire tuer parce que c'est pas vrai, mais de se faire insulter. Donc, qui en ont marre. C'est tout simplement. C'est qui en ont marre. Et ils sont pas écoutés. Vous dites-moi.
Non, mais je vous laisse terminer. Mais c'est une tendance très forte, selon vous, les militaires qui voteraient Rassemblement National de...
Si vous saviez, vous savez, l'arbre qui cache... c'est même pas ça. C'est, tout le monde se dit, nous sommes en dehors de la politique, mais par contre, on sait pour qui voter. Je suis un métèque, hein. Je sais pas, je suis un métèque. Mon collègue... Il est blanc de peau. Hein. Et votre national, c'est mon ami, j'irai à la mort pour lui. Hein. Mais il vote Front National. Il me l'a dit, hein. Il m'a dit ouvertement. J'ai dit, tu as le droit de faire ce que tu veux, mon ami. Mais c'est pas le seul. Et lui, il le fait par conviction. Il y en a qui le font par haine.
Une haine contre le président de la République, selon vous?
Pas que contre le président de la République, parce que le président n'est pas, il est élu, il n'est pas, il est. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas l'hôtel de Brienne? Tu vas voir directement le ministre et tu lui dis, voilà, je suis telle personne, je vous remets mon compte rendu et faites-en ce que vous voulez, mais je suis contre votre politique. Point. Je suis.
Laurent
je
pourra suis vous répondre et vous pourrez avoir un petit dialogue. On est resté avec Laurent quelques secondes. Il y a David également qui nous entend. Merci d'être avec nous en ce lundi 10 mai 2021, il y a 40 ans. François Mitterrand était élu président de la République de septennat. Jusqu'en 1995, et vous pourrez évidemment donner votre avis. Est-ce que ça a été une bonne chose, ces deux septennats de François Mitterrand, ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas eu que des conséquences heureuses? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous étions avec Milo qui est militaire et qui ne comprend pas, ou en tout cas qui récuse l'idée que des militaires fassent cette tribune et qui analysait les motivations de ceux qui ont pris la parole. Laurent voulait dire un petit mot, qui est un ancien sergent, et puis après on sera avec David.
Ne pas, là encore, ne pas mettre tout le monde dans le même sac, peut-être. Bon, l'armée n'est pas un milieu de extrême gauche, ça c'est, même si j'ai connu des gens qui votaient Arlette Laguiller.
Non, mais comme dit, vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là, hein, je ressors toujours la même blague, il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce.
Exactement, hein. Exactement. Donc ne mettons tout le monde dans le même sac. Le principe exit Monsieur Macron, certains peut-être, mais je pense pas que ce soit la totalité. Non, il y a, comme je vous le disais, le fond du sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait. Il y a un souci, qu'est-ce qu'on fait, comment on le règle. C'est ce monsieur, cette dame a été tuée derrière sa machine à écrire. La dernière fois qu'on s'était parlé, ça ne s'était pas produit, je crois. Et depuis, excusez-moi, je vais être très, très franco de port, ce flic, dans l'exercice de ses fonctions, se fait descendre. Comme je vous l'avais dit, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour s'apercevoir qu'il y a un souci. Il y a un souci à certains endroits. Une fois qu'on l'a dit, là, actuellement, nos politiciens nous disent « on le sait, on l'a vu ». Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est temps de passer aux actes.
Merci beaucoup Laurent. Laurent Milo, merci beaucoup. David est avec nous et je rappelle alors dans cette tribune, d'abord deux choses. On rappelle que Valeurs Actuelles avait publié le 21 avril une tribune choc dans laquelle une vingtaine de généraux, une centaine de gradés, plus d'un millier d'autres militaires appelaient le président Emmanuel Macron à défendre le patriotisme et se disaient disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Et puis il y a cette nouvelle tribune, évidemment anonyme, je dis évidemment parce que si elle était signée par des militaires d'active, ils seraient immédiatement, je ne sais pas comment on dit, si on dit licenciés, je ne crois pas qu'on dise ça d'ailleurs pour un militaire, limogé. Ça me paraît effectivement plus adapté. Merci Greg Caranoni. D'ailleurs, c'est drôle parce que le mot limogé vient, vous savez de quoi il vient? Il vient précisément de l'armée, me semble-t-il. C'est qu'un général avait été envoyé à Limoges parce qu'on l'avait mis en dehors de l'armée et Le mot de Limoges était devenu en adjectif limogé. Alors je rappelle quelques phrases de cette tribune. Les militaires ont sauvé leur peau pour détruire l'islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol. Il s'adresse à l'exécutif. Si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol, à la demande évidemment du pouvoir politique. La guerre civile couve en France et vous le savez parfaitement, etc. Donc on est cette fois-ci avec David. Bonjour David.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Votre avis.
Merci à vous de me recevoir. Alors, deuxième tribune, en l'espace d'un mois, des militaires qui sont en exercice maintenant, qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que de toute façon, s'ils disent leur nom, comme on l'a vu tout de suite, M. Darmanin réagit de vive voix, et puis il fait pas dans la délicatesse. Traiter des gens qui sauvent la France, qui défendent la France, qui sont là pour faire établir le droit public, défendre nos couleurs dans d'autres pays et tout ce qui s'ensuit, les traiter de pas grand-chose, de la part de ce ministre, c'est un peu désolant. Il faut qu'il se recentre, ce personnage, parce qu'il y a quand même deux personnes de où il est responsable qui ont été tuées. Hein, il faut pas qu'il l'oublie. Hein, il faut recentrer quand même les choses. Alors encore une fois, on connaît le gouvernement. Hein, Macron et toute la bande va dire que c'est encore des gens qui font partie des extrêmes, de l'extrême droite, hein, pour pas voilà. Parce que quand on dit extrême droite, maintenant on dit un gros mot. Hein, alors c'est pas extrême droite, hein, Rassemblement National, Dupont-Aignan, tout ce que vous voulez.
Extrême droite. Peut être effectivement, ouais. Ça peut être un gros mot. En revanche, ce qui est différent, c'est de qualifier quelqu'un systématiquement d'extrême droite, et ça arrive dans l'espace politique, mais parfois dans l'espace médiatique, parce qu'il met en place simplement des arguments qui sont conservateurs ou de droite classique telle qu'elle pouvait l'être dans les années 80 ou 90.
Tout à fait. Et donc, le débat est simple, c'est un deuxième coup de semonce. Voilà. Apparemment, ils n'ont pas compris. On exerce toujours de laxisme. On n'a toujours pas vu que dans les cités, les tirs de mortier étaient diminués. Hein. C'est encore d'actualité. Hein. On n'est pas le 14 juillet, hein, je vous rappelle. Hein. En France, on est quand même un pays où on crame 800 bagnoles pour le jour de l'an. Hein. Et puis, il faut remettre aussi les choses en place. Écoutez, quand vous habitez dans des cités, que quand vous rentrez du boulot, une petite bande vous dise tout simplement de baisser les yeux pour rentrer chez vous, alors que vous avez travaillé 8 heures et que ces gens-là sont restés dans un fauteuil pour regarder s'il y a des policiers qui passent ou bien pour vendre leur merde, hein, on va être très clair. Je pense que dans un État français où M. Macron était là pour défendre la veuve et l'orphelin, je pense qu'à ce jour, il n'a pas fait grand-chose. Faut bien qu'il se dise ça.
Écoutez, il faut qu'il soit très clair. Écoute, c'est dit manifestement. David, vous êtes dans le Jura, vous êtes technico-commercial. Mais, oui. Par exemple, je peux vous poser une question indiscrète et vous n'êtes pas obligé de répondre. Pour qui vous allez voter aux prochaines élections présidentielles ?
Alors, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais voté le Front National, ni le RN. À ce jour, je n'ai jamais voté.
Et vous votiez plutôt à droite et vous faites partie de ces électeurs qui disent parce que j'entends ça, moi, parfois, parmi les auditeurs et puis même dans la rue, de dire, écoutez, pourquoi pas, quoi.
J'avais tout simplement cru en M. Nicolas Sarkozy, qui avait dit des choses. Sachant qu'il était un ancien ministre de l'Intérieur, je me suis dit, il va peut-être faire bouger les lignes. Il n'a rien fait bouger du tout. Il n'a strictement rien.
Il y a eu une crise majeure, disons-le, durant son quinquennat.
Oui. Alors, est-ce que ça a été volontaire ou pas ? J'en sais rien, mais bon.
La crise majeure, elle n'a pas été volontaire, la crise des subprimes et la crise bancaire.
Oui. Non, mais il y a aussi des crises par rapport à des financements, des choses comme ça. Bref, ça, c'était juste après. Mais oui, c'est vrai, Pascal, j'avais oublié cette crise-là. Mais à ce jour, je suis en train de me poser des questions. Si je veux vraiment qu'il y ait un bouleversement dans cette politique qui ne bouge pas, qui ne réagit pas, où les forces de l'ordre commencent à taper du poing vers Darmanin, où les militaires qui soient en activité ou en retraite commencent à taper du poing, où les pompiers en ont marre de se faire caillasser, de se prendre des pavés sur la gueule, il n'y a pas d'autre mot, hein, de se faire bombarder lorsqu'ils sauvent des vies, lorsque les Français moyens, à ce jour, ne peuvent plus sortir en ville sans se faire agresser.
Faut peut-être pas exagérer non plus, vous voyez, faut pas. Je suis le premier à dire qu'il y a des problèmes de sécurité, mais votre dernière phrase est trop générale. On peut quand même sortir en ville, à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, et rentrer chez soi tranquillement.
Je suis à 45 km d'une ville qui s'appelle Besançon, où il y a une cité qui s'appelle Planoise. Est-ce que vous savez ce qui est marqué sur les ponts, sous les ponts ? Vous savez ce qui est marqué ? La maire de Quivandes avec les tarifs. Vous croyez que ça, c'est normal, à côté
non,
des écoles ?
Mais c'est pas la même chose qu'on disait quand même, David. Mais merci à vous, et vous avez raison que la drogue, il faut mener ce combat. Merci à vous. On va être avec Isabelle. Et puis, le 10 mai 80, on n'a pas un petite ambiance du 10 mai 81
Alors moi j'avais prévu une petite chanson de ce qu'on pouvait écouter en 1981.
Alors écoutons par exemple Jean Schultes.
Ça c'était en 1981.
Ouais, mais moi je crois que c'est sorti après le 10 mai, hein, ça. C'est sorti en septembre, ça je pense. Vérifier, mais...
Je vais vérifier. Mais en tout cas c'était pour mettre dans l'ambiance qu'on pouvait écouter en 1981. Et si on faisait une pause ?
Et faisons une pause.
Merci.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et pour vous donner l'atmosphère de l'époque, en 81, c'est Saint-Étienne qui gagne le titre de champion de France. Et je crois que c'est Bastia qui gagne la Coupe de France. Et c'était extraordinaire parce que c'était la première finale de François Mitterrand comme président, puisqu'il a assisté aux 14 finales, François Mitterrand, entre autres, de ce qu'il a fait durant son parcours et ses deux septennats. Nous sommes avec Isabelle, qui est chef d'entreprise dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors vous allez signer, ça va bien, mais vous allez signer cette tribune.
Oui, je vais la signer.
Pourquoi ?
Une seule fois, hein, pour être honnête, parce que je trouve que ces tribunes où on peut signer plusieurs fois, c'est ridicule. Pourquoi je vais la signer ? Parce que je fais partie de ces gens qui en ont marre de voir que les politiciens ne voient rien. Je crois qu'il faut vraiment être aveugle ou sourd dans ce pays pour voir que ça ne va pas, ou être sourd et aveugle, avoir les deux. Et je suis bien contente que les militaires, qui sont courageux, soulèvent les réels problèmes. Donc je vais signer cette
tribune. Mais est-ce que c'est à eux de le faire ?
Mais écoutez, qui va le faire ?
Bah, les politiques, justement, l'opposition peut le faire. Vous avez par exemple, Madame Le Pen, c'est ce qu'elle fait. Elle prend la parole et puis elle sera peut-être élue. C'est le travail d'un homme politique.
Oui, mais entre ce que disent les politiques avant d'être élus et ce qu'ils font, trouvez-moi un qui a mis en place ce qu'il a dit depuis des lustres.
Bah, il y en a Madame quand même quelques-uns parfois qui mettent en place.
Mais Madame Le Pen, elle est en train de remplir un vide. Mmh. On n'a pas intérêt à ce que Mme Le Pen soit élue. De toute façon, à mon avis, je vais vous le dire, ce que j'avais dit à votre collaborateur, je ne pense pas qu'il y ait eu deux tribunes comme ça, sorties coup sur coup, en moins d'un mois, pour rien. Ce sont quand même des gens, lorsqu'ils prennent la parole, prennent des risques. On a tout de suite vu le gouvernement qui allait les sanctionner. Pour ceux-là qu'ils sont actuellement encore en... Même si, s'ils témoignent de manière anonyme, ils prennent des risques parce qu'on peut toujours avoir des fuites. Moi, je pense que ces hommes sont des stratèges, qu'ils font des tribunes, qu'ils regardent comment le peuple réagit, comment les politiques réagissent. Alors là, c'est grandiose, hein, ce qu'on a vu lors de la première tribune, qui transformait les propos, qu'ils incitaient à la guerre civile. Alors c'est complètement faux. Non, mon opinion, c'est qu'ils sont en train de tester. Et je suis quasiment persuadée que nous aurons un ex-militaire qui se présentera au présidentiel de 2022, style De Villiers.
Ah, vous pensez que c'est des bandes-annonces d'une candidature Pierre De Villiers?
Un test de réaction. Alors, ça peut-être pas De Villiers, ça peut être un autre.
Non, mais en tout cas, un militaire.
Oui.
Vous pensez qu'un militaire va se présenter l'année prochaine à l'élection présidentielle?
J'en suis quasiment certaine. C'est un rempart contre la politique à papa qu'on nous resserre depuis 40 ans. Et c'est le meilleur rempart contre Marine Le Pen. Et je vois pas des militaires s'acoquiner avec le Front National. Honnêtement.
Bah écoutez Isabelle, c'est votre avis et tout cela est possible, bien évidemment. Mais alors, ce qui est intéressant dans cette tribune, j'ai pas tout lu parce qu'elle est quand même assez longue. Lâcheté, fourberie, perversion, telle n'est pas notre vision de la hiérarchie. L'armée est au contraire par excellence le lieu où l'on se parle vrai parce que l'on engage sa vie. C'est cette confiance en l'institution militaire que nous appelons de nos voeux, est-il écrit. Et puis il est rappelé, les anciens, le cri d'alarme de nos anciens renvoie à de plus lointains échos. Et là, il parle de la dernière tribune du 21 avril. Nos aînés, ce sont les résultats
de
40.
Non, pas du 21, du 13.
Oui, alors vous avez raison. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison.
C'est vachement important.
Mais bien sûr, et vous faites bien de me reprendre.
Quelle désinformation.
Bah non, parce que c'est pas de la, on peut dire désinformation, mais
ce que je veux dire par là, Pascal, c'est les partis politiques qui se sont servis de cette date en disant, oh, vous voyez, le 21, il s'est passé ça et ça. Enfin, une désinformation que vous étiez le premier, je crois, à avoir corrigé sur CNews.
Bah c'est vrai que c'était pas le 21 avril, le jour anniversaire du putsch, mais le 13. Vous avez parfaitement raison. Donc voilà. Je termine la phrase. Le cri d'alarme de nos anciens renvoie à de plus lointains échos. Nos aînés, ce sont les résultats résistants de 40 que bien souvent des gens comme vous traitaient de factieux et qui ont continué le combat pendant que les légalistes, transis de peur, misaient déjà sur les concessions avec le mal pour limiter les dégâts. Ce sont les poilus de 14 qui mouraient pour quelques mètres de terre alors que vous abandonniez sans réagir des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Ce sont tous les morts, célèbres ou anonymes, tombés au front ou après une vie de service. C'est vrai ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire qu'en 40, et moi je le rappelle sans arrêt parce que aucun administratif n'a démissionné. Aucun juge n'a démissionné. Aucun magistrat n'a démissionné. D'ailleurs, d'où la phrase célèbre de De Gaulle, un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner. Donc, ceux qui sont allés au combat, bien souvent, c'était alors des gens dans la résistance. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de gens qui n'entraient pas dans la résistance, hormis les militaires, hein, je ne dis pas ça. Mais c'est vrai que, pareil, on sait aujourd'hui que durant la guerre de 14, on a envoyé des piou-piou au massacre. Au massacre. Ben merci Isabelle.
J'ai juste ajouté, vous savez, quand on voit ce qui s'est passé le week-end dernier entre Dupond-Moretti et Marine Le Pen, franchement, ces petites guéguerres de politiciens, ne pensez-vous pas qu'on a vraiment autre chose à faire dans ce pays et que les militaires ont raison?
Ben écoutez, c'est votre avis, hein, et vous êtes là pour le donner, donc ça tombe bien. Isabelle ?
Mais oui, on parle des résistants, mais les vrais résistants aujourd'hui, mais c'est la police, c'est les gendarmes, c'est les pompiers, ceux qui continuent à faire leur service. Mais qu'on caillasse à la moindre possibilité. Voilà.
Ben merci.
On a dit. Au revoir, Pascal.
Merci.
Bonne journée.
Isabelle. On a terminé sur la tribune. Il est 13h37. Laurent Tessier qui est derrière la vitre aujourd'hui.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Le Premier ministre Jean Castex reçoit ce soir les syndicats de police après les deux drames d'Avignon et de Rambouillet. Il réclame une réponse pénale plus forte contre ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. La justice est-elle trop laxiste avec celles et ceux qui s'en prennent aux policiers et gendarmes ? Oui pour Carole sur nos réseaux sociaux. À chaque drame, nous en revenons aux mêmes questions, aux mêmes demandes. Il est grand temps de taper du poing sur la table. Sanctions immédiates, sévères pour celles et ceux qui s'attaquent à nos policiers, rajoute Marc. Partagez-vous ces avis. 32-10. Et puis le 10 mai 1981.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
40 ans après la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle, que reste-t-il de la gauche ? Quels souvenirs gardez-vous de cette date ? Comment la gauche peut-elle se relever ? L'ancien Premier ministre Lionel Jospin était l'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
Qu'il tire des leçons de ce qu'a fait François Mitterrand, construire une force, unir des éléments de la gauche. Moi, je les regarde avec sympathie, mais ce n'est pas en cultivant les égos qu'ils avanceront. Donc, ils ont plus de moi pour essayer de le faire.
Souhaitez-vous que la gauche revienne au pouvoir ? Non, on a donné, lance Marc sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. 1981, le début du chaos organisé pour Pierre. Alain parle de la plus grande catastrophe politique et économique. Pour Landry, après l'espoir, la désillusion, quel gâchis. Mais arrêtez de cracher dans la soupe, lance José, j'étais jeune. Je me souviens de la joie de nos aînés, la retraite à 60 ans, la fête de la musique et surtout les radios libres.
Et vous avez entendu la voix d'Étienne Moujotte qui a fait le compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est Jean-Pierre Elkabbach qui annonce François Mitterrand est élu président de la République. C'était il y a 40 ans. Où étiez-vous il y a 40 ans ? Appelez-nous.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
François Mitterrand, c'était il y a 40 ans. Nous sommes avec Diane. Bonjour Diane.
Bonjour Pascal.
Vous habitez Clermont-Ferrand également.
Exactement.
Alors, où étiez-vous le 10 mai 1981 ?
Alors, le 10 mai 1981, moi j'étais dans le salon de mes parents, j'avais 17 ans, parce que je crois qu'on a à peu près le même âge, vous et moi. Et donc, moi la première image, c'est mon père en apnée devant la télévision quand Elkabbach annonce François Mitterrand élu, tout juste, il fallait pas appeler les pompiers avec la tente à oxygène. Ma mère en pleurs, et je vous prie de croire que c'était pas des pleurs de joie. Et moi, en train de contempler...
C'était une famille progressiste dans laquelle vous étiez, manifestement.
Pas forcément, non, enfin, je veux dire, pas socialiste, pas à gauche, quoi, en fait, voilà.
Oui, non, mais
ça.
Voilà, les forces
gauche,
de progrès n'étaient pas entrées jusque dans votre maison.
Ah, mais je suis, ouais, enfin, force de progrès, je pense que la droite n'est pas non plus forcément opposée au progrès.
Non, mais je vous taquine,
Diane,
je vous
taquine. C'est pour le replacer dans le contexte, effectivement, puisque Jacques Lang avait dit que la France était passée du nuit, de la nuit au jour, ou quelque chose comme ça, enfin bon, c'était sa fameuse
exactement.
Formule.
Alors c'est au congrès de Valence également, il y avait eu Paul Quilès qui avait dit « Il ne suffit pas de désigner des noms qui vont tomber, mais il faut dire qui et quand ».
C'est une phrase un peu vraie, comme ça. Et dans Canard Enchaîné, il l'avait surnommé Robespol, qui était très
bien sûr,
à cette époque-là.
Le congrès de Valence de l'automne 80.
Ouais, c'est vrai, effectivement. Et donc, moi, au milieu des deux, j'étais en train de contempler le chemin de croix que j'allais vivre le lendemain en allant au lycée, parce que comme j'étais à peu près la seule de ma classe à être... à un petit peu exprimer mes idées de droite.
Fiche-toi.
Puisque, oui, en plus, j'avais même fait la campagne de Chirac au premier tour, en étant loin d'imaginer qu'il allait favoriser la victoire de Mitterrand au deuxième, mais bon, à l'époque j'avais des excuses, j'étais jeune, j'avais des illusions et des convictions. Ce qui a bien passé, enfin j'ai toujours des convictions, mais les illusions je les ai perdues. Donc voilà, ça c'était.
Certains en ont fait des romans, hein.
Ouais, tout à fait. Mais bon, et oui, effectivement. Ah, j'ai pas ce talent-là, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé, mais.
Mais vous étiez à Clermont-Ferrand déjà ?
Oui.
Donc
tout
vous
à
n'avez
fait.
Pas. En fait, c'est drôle, vous n'avez pas bougé au fond de Clermont-Ferrand.
J'ai fait
pour...
des études ailleurs et je suis revenue à Clermont. Si, j'ai même habité Paris. Mais si vous voulez, je me sentais tellement mal. L'air du métro parisien ne me convenait pas du tout.
Et
si vous voulez, je suis bien retournée dans ma verte Auvergne où, à 5 minutes de chez moi, j'ai les volcans et je peux aller me promener et me changer, et me changer les idées quand je vois l'état de la France aujourd'hui. Quoi. Donc, pour revenir au 10 mai 81, oui, donc après la semaine, c'était les profs qui ont défilé au lycée avec une rose à la main. Donc,
non.
Si.
Les profs.
Je vous jure que j'avais, notamment, enfin moi je n'ai pas fait d'allemand, donc, mais il y avait une prof d'allemand qui était venue avec la rose à la main le lendemain, quoi, en fait. Et,
les profs étaient, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de nostalgique et en même temps c'est dommage que cette gauche républicaine n'existe plus. Parce que c'est vrai que tous les profs, les profs étaient de gauche, certes.
Exactement.
Mais j'ai envie de dire c'était bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était la gauche universaliste, c'était la gauche laïque, c'était la gauche qui ne se compromettait pas avec l'islamisme. Et il y avait quelque chose de flamboyant dans cette gauche-là.
Mais moi, je vous avoue que je pense à ces années avec beaucoup de, enfin, avec beaucoup de nostalgie, quoi, parce que il y avait un véritable débat, il y avait des valeurs, il y avait des choses qui étaient.
Un espoir.
Enfin,
changer la vie.
Oui, changer la vie, ouais. Oui, en fait, le pire, voyez-vous, c'est que ce fameux soir du 10 mai, je reviens là-dessus, hein, le pire, on ne le connaissait pas, c'est qu'on ne savait pas qu'on allait encore en prendre pour 14 ans, quoi, en fait. Parce que, bon, moi, je me souviens aussi d'amis qui disaient, oh, mais de toute façon, ce septennat ne va pas tenir en 88. Ah ben, ma cache, coco, il est bien passé en 1988.
Oui, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu des inflexions, convenez que... alors, il y a la première partie 80-83 qui est sans doute très à gauche, avec des réformes sociales, notamment. Et fallait sans doute qu'il y ait ces réformes sociales.
Oui, mais si vous voulez,
la retraite à 60 ans, il y avait des gens qui attendaient ça depuis des années. Les 35 heures, pareil. Les 35 heures, c'est plus tard, pardonnez-moi.
C'était,
comment dire, mais vraiment, la retraite à 60 ans, c'était une réforme utile. Et donc, non, j'ai confondu avec la cinquième semaine de congé payé, pardonnez-moi.
Ouais.
La cinquième semaine de congé payé, les 35 heures, évidemment, c'est Martine Aubry, mais la cinquième semaine de congé payé, c'était sans doute une bonne chose.
Oui, non, mais je dis ce qu'on vient pas. Par contre, sur la retraite à 60 ans, j'ai une petite modulation à faire. Parce que, certes, il aurait pu baisser la retraite, mais la retraite à 60 ans, on en paye encore les pots cassés aujourd'hui. Si on est encore en déficit, c'est aujourd'hui.
Oui, mais c'était en 80, c'était il y a 40 ans. Il y a des gens qui bossaient depuis l'âge de 13 ans, Diane.
Oui, mais si vous voulez, il aurait mis la retraite à 62 ans. Ça aurait contenté tout le monde et ça aurait peut-être un petit peu amoindri le choc. En plus, moi, ce qui m'a beaucoup énervé, enfin, je me souviens très bien de 81, moi, ce qui m'énervait beaucoup quand on voyait les ministres et même François Mitterrand, c'est qu'on n'arrêtait pas de nous parler de l'héritage. Je ne sais pas si vous
bien sûr, ils nous ont fait
l'héritage,
de l'héritage pendant
l'héritage,
des mois.
L'héritage. Mais moi, je vais vous dire, heureusement qu'il y avait un héritage, parce que cet héritage-là, sonnant et trébuchant, il a quand même permis de faire toutes ces réformes dont vous me parlez, là, en fait.
Ben, je crois que c'est le dernier budget équilibré.
Voilà,
celui de Giscard. Merci Diane.
Eh bien, ça veut bien dire justement que tout cela a quand même. Que c'était un peu le début de la fin, quoi, en fait.
Ah oui, pour vous, c'est le début de la fin.
Ouais, parce que moi, il y a deux choses que je. Non, mais en fait, oui, parce que c'est le dernier. Vous dites que c'était le dernier budget équilibré.
Oui.
Non, pour moi, c'est le début de la fin de la France, enfin, de ce que le général de Gaulle appelait une certaine idée de la France. Parce qu'il y a deux choses, quand même, que je ne pardonne pas à Mitterrand. C'est ses ambiguïtés avec le Front National, parce qu'il a bien divisé la droite en 1986 avec l'introduction de la proportionnelle. Et c'est le référendum de Maastricht où là il nous a bien eu dans les grandes largeurs. Il a
les gens ont voté, vous êtes marrante.
Mais attendez, vous vous souvenez du débat avec Philippe Seguin?
Oui.
Ouais.
Mais ça a été du 50-50. Bien sûr, je m'en souviens bien.
Mais Philippe Seguin s'est laissé embobiner parce qu'effectivement Mitterrand était malade.
Oui.
Toute la France derrière jouait violon, sonnait trompette ou Dieu sait quoi. Certains se sont dit le pauvre vieux, on va pas le contrarier, il est malade, on va lui offrir une belle fin. Et puis voilà quoi en fait. C'est
bien,
ça,
elle est en forme.
Non, mais c'est-à-dire que c'est des sujets qui me... Si vous voulez, voilà, j'ai eu une bouffée de nostalgie, un coup au cœur quand j'ai réentendu Jean-Pierre Elkabbach dire François Mitterrand est élu. Et puis, je me dis que finalement, malgré tout, c'était quand même des bonnes années, quoi, en fait, voilà.
Eh ben merci beaucoup. Merci. Et on marque une pause et nous revenons tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, vous savez ce qu'on écoutait, par exemple, en 1981?
Moi, je sais, on écoutait la danse des canards.
C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des rames et font coin-coin.
Alors, non seulement on écoutait, mais en fait, c'est le titre le plus vendu de l'année 1980. Vous vous rendez compte? Et alors, on écoutait également, parce que c'était André Torrent qui présentait sans doute non pas le top 50, parce que ça n'existait pas, mais le hit parade. Et il y avait dans ce hit parade Herbert Léonard. Ça, c'est 1980. Il y avait également, parce que c'était sorti en novembre 80, il y avait La Boum.
Ah, je vais le sortir. Alors,
de Richard Sanderson, réalité. Il y avait Kim Carnes.
Bien sûr, il y avait Vertige de l'amour.
Kim Carnes, vous ne l'avez pas ?
Vous voulez Kim Carnes ?
Ah ouais. Ça, c'est génial, ça. Eh oui, c'était nos jeunes années. Il y avait des booms. On disait des booms à l'époque, où on disait des soirées. Tu vas en soirée ? Est-ce que t'es invité chez Machin Show samedi soir ? Ah ben voilà, voilà. Et on dansait là, on allait demander. Parce que nous, les jeunes filles de cette époque-là s'appelaient Véronique, Nathalie, Isabelle, Dominique.
Pascal Leuil,
on avait. On disait, voilà, Véronique, tu veux danser un slow avec moi ?
Ah, vous disiez vraiment ça comme ça ? Avec
disait,
l'accent ?
Un slow. Et oui, on partait en Angleterre l'été, c'était une période merveilleuse, un mois, sans nos parents, c'était à nous les petites Anglaises.
Il y avait le quart d'heure américain.
Ouais, ça c'est un truc, non, ah, ça n'existait pas le quart d'heure américain.
D'accord.
Jean-Michel est avec nous, il vient nous parler.
C'était déjà mieux avant à l'époque.
Non mais c'était, écoutez, là on a 17 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 17 ans ! Jean-Michel, bonjour. Jean-Michel, vous aviez quel âge en 1981 ?
J'avais 22 ans.
Ah, racontez-nous comment ça s'est passé le soir.
J'étais en âge de voter.
Oui, vous avez voté ?
Et, oui, bien sûr. Oui,
vous avez voté pour qui ?
Giscard.
C'est très, très heureux de cela.
Oui, mais vous savez, si on écoute Laurent Gérard, il n'y a pas beaucoup de politiques en ce moment qui peuvent paraître fréquentables ou sympathiques ou fiables, du moins politiquement, non.
Bon, vous étiez triste, alors vous étiez avec vos parents peut-être dans le salon familial ?
Oui, bien sûr, c'est comme Diane, c'est-à-dire que c'est vrai que les soirées, d'ailleurs ça compte, ça continue encore, hein, les soirées électorales, soit on est dans des bistrots avec des potes, soit on est dans des, soit on est devant la télévision en attendant le dénouement d'un suspense qui dure quand même depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que mes parents n'étaient pas du tout pro-Mitterrand, parce qu'ils avaient connu Mitterrand sous la 4e République, comme ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie, avec aussi l'attentat de l'Observatoire, vous savez, où
bien
en
sûr,
de
bien
notoriété.
Sûr, bien
voilà, il avait provoqué un pseudo-attentat pour essayer de faire redorer la pilule.
On ne va pas dire ça comme ça, parce que c'est très contesté la version que vous venez de donner, mais c'est les jardins de l'Observatoire qui sont quasiment sur la rue Guy-Nemer, parce qu'il habitait à ce moment-là rue Guy-Nemer dans le 6e arrondissement, et il a toujours nié la version que vous donnez.
Ah ben bien sûr, oui, c'est comme Roger Knobelspitz, il a toujours nié les... N'empêche qu'il a fini quand même par aller en prison.
Restons sur Mitterrand.
Ben bon, oui, mais Roger Knobelspitz était aussi un protégé de François Mitterrand.
Oui, mais Roger Knobelspitz...
Le gros drame... Je pense peut-être que j'aurais pu voter socialiste à cette époque-là si Mitterrand n'avait pas fait un pacte avec les communistes. Il faut quand même se souvenir, et c'est toujours le cas, que le communisme, ça existait sous forme d'une dictature dans toute l'Union soviétique. En Chine, on n'était pas très loin après la révolution culturelle qui avait provoqué quand même quelques dizaines de millions de morts, que le Parti communiste prônait des dictatures qui n'étaient absolument pas du tout acceptables pour moi. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voté pour Mitterrand. Parce que, comme vous dites, Chirac n'était pas particulièrement sympathique. Ceci dit, on ne vote pas pour un homme politique, pour un président, parce qu'il est sympa, on partira jamais en vacances avec lui. Par contre, il faut voter pour lui pour qu'il nous permette de mieux vivre.
Bon, en tout cas, vous...
C'est encore une des erreurs de Mitterrand, ça. C'est de vouloir changer la vie. Mais changer la vie de qui ? Améliorer la vie, ça sous-entend que les gens qui n'ont pas une vie forcément agréable, on va les aider à mieux vivre. Mais changer la vie, il veut changer la vie de qui ? Même des gens qui sont déjà heureux ? C'est-à-dire pour en faire des malheureux. Là, on n'est pas loin de ce qui s'est passé au Cambodge. On mettait les gens des villes à la campagne pour travailler dans des rizières. Donc, moi, je garde un assez mauvais souvenir. La seule jolie image, peut-être, de ce soir, du lendemain de l'élection, c'est quand il a remonté les Champs-Élysées, qu'il y avait avec lui Dalida. Il y avait Annie Girardot. Je me souviens que, souvent, dans les campagnes électorales, il y a des gens qui sont contents, on va dire méchamment contents d'avoir écrasé.
Mais ça, c'était pas le 10 mai 81, ça? Ah non, il est à Château-Chinon le 10 mai 81. Il ne remonte pas les Champs-Élysées.
Non, mais alors, d'accord, le lendemain.
Ouais, c'est
le lendemain.
C'est là. Moi, je pense que vous, si vous me permettez,
oui.
Je pense que vous confondez avec la prise de pouvoir qui est le 21 mai, où il remonte la rue Soufflot
qui mène au Panthéon. Oui. Et là, effectivement, vous avez Dalida qui est à côté de lui et il entre dans le Panthéon avec ses trois roses qu'il va déposer sur les tombes de Jean Jaurès, Jean Moulin de mémoire et Victor Schlecher qui a aboli l'esclavage. Et c'est une retransmission célèbre puisqu'elle était par ce réalisateur qui le suivait, Serge Moati qui l'avait suivi dans le Panthéon. Jean-Michel, on marque une pause, vous allez revenir peut-être dans une seconde.
Faut que je rentre à l'hôpital, je suis désolé Pascal.
Pourquoi? Terminé, je vous laisse un mot de conclusion, faut que vous partiez pour l'hôpital.
Oui, je suis devant là, j'ai rendez-vous à 14h15. Ce qu'il faut se souvenir, c'est des problèmes d'inflation qu'il a créés. Le franc, à l'époque, avait perdu beaucoup de valeur, ce qui a renchéri tous nos approvisionnements en carburant. La peine de mort, j'aurais voté pour s'il y avait eu une peine de substitution de long terme pour les grands criminels. Or, la peine de mort telle qu'elle a été faite, j'aurais voté contre. J'ai pas oublié non plus le Rainbow Warrior. Je n'ai pas oublié non plus une absence lors d'une crise où tout le monde le cherchait, il était parti se promener en dehors de l'Élysée. Donc, je garde un très mauvais souvenir de cette période. Je ne voterai jamais à gauche, je pense, sauf vraiment si on est peut-être contre le Front National, et encore il faudra voir, parce que là aussi les choses ont évolué, mais je pense que
merci.
Je ne voterai jamais à gauche à cause de cette période-là. Merci.
Eh bien
Pascal.
Merci. Maintenant je vous ai laissé parce que vous partiez pour l'hôpital, et bon courage Jean-Michel. Et c'est vrai qu'il a parlé de quelque chose, Jean-Michel, qu'on a oublié, l'inflation. Il y avait entre 18 et 22% d'inflation dans ces années-là. Et il y a eu deux ou trois dévaluations de mémoire entre 81 et 83. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Il est 14h01. Et le flash avec Hortense Crépin.
Une enquête ouverte à Lyon après la découverte d'un tag menaçant la police lyonnaise et faisant référence à la mort d'Éric Masson. Concernant son décès, 5 personnes sont actuellement en garde à vue. Parmi elles, le tireur présumé âgé d'une vingtaine d'années, mais aussi un complice. Jean Castex reçoit ce soir les syndicats de police avant de se rendre demain à Avignon, où se tiendra un hommage national en l'honneur de la victime. Bernard Tapie de retour au tribunal. L'homme d'affaires est jugé en appel pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui lui a permis de récupérer 400 millions d'euros dans son litige avec le Crédit Lyonnais. Il avait été relaxé en première instance. Michel Fourniret hospitalisé en urgence à la Pitié-Salpêtrière. Le tueur en série souffre de problèmes cardiaques et de dégénérescence mentale. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU prévue aujourd'hui pour évoquer la situation à Jérusalem-Est. Ce matin, près de 300 personnes ont été blessées dans des affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées après un week-end de violence dans la ville sainte. En cyclisme, c'est vallonné sous la pluie aujourd'hui pour la troisième étape du Giro. Un peu moins de 120 km avant l'arrivée à Canale. Et le coureur d'Ineos, Filippo Ganna, toujours en rose. La météo avec des orages dans l'est du pays, entre le Jura, les Alpes et la Méditerranée. À l'arrière, un ciel variable entre averses et éclaircies. Attention, l'Ain, le Rhône, l'Ardèche, la Haute-Loire et la Loire sont placés en vigilance orange, pluie, inondation. Les températures, 13 degrés à Brest, 18 à Lille et Paris, 19 à Marseille. Les courses, c'était à Saint-Cloud, l'arrivée provisoire, 7, 10, 8, 6 et 4. 14h03 sur RTL et la suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci Hortense Crépin, je suis en train de regarder le premier gouvernement Pierre Mauroy. Il y a 23 ministres pleins avec le Premier ministre. Il y a 25 ministres pleins avec le Premier ministre. Il y a 23 hommes, il n'y a que 2 femmes. Et les 2 femmes sont Nicole Questiau, qui était ministre d'État, ministre de la Solidarité nationale, et Edith Cresson, qui était ministre de l'Agriculture. C'est quand même extraordinaire. C'est simplement il y a 40 ans. Et on voit ce monde qui a changé, pour le coup. 25 ministres pleins, 23 bons hommes. Extraordinaire, quand même. Christophe est là. Bonjour, Christophe, qui habite dans les Yvelines, qui est directeur d'une école primaire. Et évidemment, l'idée, c'est de nous rappeler cette journée, comment vous l'avez vécue.
Bonjour, Pascal. Écoutez, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 21 ans et j'étais pour la première fois professeur. Donc,
c'est votre première année d'enseignement.
Première année d'enseignement.
En 80.
Voilà. Et je me retrouve en plus dans l'ancienne école où j'étais enfant, et j'étais instite. Et il a fallu, mon cher Pascal, que je fasse semblant d'être content. Car tous mes collègues étaient communistes ou socialistes. Moi, j'étais le seul à droite pour des raisons familiales. Et nous avons fêté au champagne Mitterrand. Je faisais semblant d'être heureux. Il était hors de question.
Vous êtes courageux ou, vraiment, alors, vraiment, je vous félicite,
Christophe. Hypocrisie totale. De toute façon, il était hors de question que je dise que j'avais voté autre chose. Parce
non, mais
que
tous les profs étaient de gauche. C'est vrai, ça.
Tous les profs étaient de gauche.
Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, hein. Il y avait unité, quasiment unité, ils votaient tous pour le PS, peut-être aussi le PC, alors, mais c'était vraiment... Il y avait moins d'offres politiques qu'aujourd'hui.
C'est vrai, Pascal, sauf que même à notre époque et même dans mon école, il n'est pas très bon de dire qu'on est plutôt à droite, parce qu'on est automatiquement étiqueté extrême droite avec une connotation éventuellement xénophobe. C'est très compliqué dans le milieu de
professeurs. Oui, vous avez parfaitement raison. Bon. Le milieu toujours penche à gauche, mais il ne s'incarne pas dans un parti politique comme il pouvait s'incarner en 81 à travers la figure de Mitterrand, qui était la figure tutélaire, disons-le.
C'est clair. Mais Pascal, vous allez dans une salle des profs ou une salle des maîtres, le discours, il est vraiment très gauchisant, très mélenchoniste, et il n'est pas question de dire « Ah bah vous savez, moi je suis plutôt de telle tendance, vous risquez d'avoir la gueule ». Et une autre anecdote dans la suite, une fois il y avait eu une grève contre le gouvernement de droite, vous savez, c'était la transition pendant qu'il y avait une cohabitation.
86 ?
Voilà, j'étais le seul à ne pas faire grève dans mon école, c'était à Nanterre. Eh bien, pendant un mois, plus personne ne m'adressait la parole parce que j'étais non-gréviste et affiché à droite. Voilà la belle ouverture d'esprit de nos charmants professeurs ancrés à gauche et qui refusent de penser qu'on peut avoir d'autres idées. Moi, en plus, Pascal, pour aller plus loin, mon papa, il était prothésiste dentaire. Il vient de nous quitter, donc je lui rends hommage. Lui, il bossait 12 à 14 heures par jour. S'il bossait pas dans le privé comme il a fait toute sa vie, il n'y avait pas d'argent à la maison, donc il n'a jamais su ce que c'était qu'être malade ou de faire grève ou d'avoir un syndicat. Donc tous ces discours gauchisants de fonctionnaires qui ne pensent qu'à la retraite à 55 ans, mais ça m'agace. Et pour nous, dans la famille, et pas que moi, Christophe, le début de 81 et l'arrivée de la gauche, c'est le début de la descente aux enfers du pays.
Bah, vous n'êtes pas très positif sur François Mitterrand, tous, j'espérais. On va essayer d'être... voilà, Béatrice va être dans une seconde avec nous et elle va avoir sans doute un autre regard, parce qu'il y a des choses très positives chez François Mitterrand, notamment les radios libres, certaines choses qui ont été faites, la peine de mort, bien sûr. Alors, je regardais les films de 1981, Garde à vue, film formidable, Les aventuriers de l'Arche perdue, Garde à vue, c'est un film... de Claude Miller. Vous avez un film qui s'appelle Le bateau, Ragtime, Le prince à New York. Vous avez également La femme d'à côté. Si vous n'avez pas vu La femme d'à côté de François Truffaut avec Depardieu et Fanny Ardant, vous pouvez toujours le regarder. Coup de torchon était sorti en 1981. Voilà les films qui avaient été à l'affiche en 81. Alors que Greg Carononi, lui, avait moins de 2 ans, non, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je suis né 2 ans plus tard, un peu plus.
Et dites, non, vous êtes né sous Mitterrand.
Oui, absolument.
Moi, je suis né sous De Gaulle. Ah, bon, chacun choisit ses présidents.
On choisit, oui, on a tous choisi.
Bon, eh bien,
on peut réécouter un peu de Jean Schultes, j'adore vraiment.
Ah, ben, Confidence pour Confident.
Merci. Hein.
C'est que c'est un film également, Confidence pour Confidence. C'est un film formidable d'ailleurs.
Qui a réalisé ce film ?
Pascal Thomas. C'est un film formidable avec Daniel Sicaldi. C'est la grande époque de Pascal Thomas. Les Zozo, Pleure pas la bouche pleine, Le chaud lapin. Vous pouvez voir ces films-là, ils sont formidables. C'est ennuyeux quand même qu'entre-temps vous soyez devenu l'homme du passif. Vous vous souvenez de ça, de cette sortie, de cette punchline de François Mitterrand à Valérie Giscard d'Estaing dans Le Débat.
Vous aviez fait une imitation là à l'instant ?
Oui, c'était une imitation.
Ah d'accord,
parce que
j'étais pas sûr.
Giscard avait dit en 74 « Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur le président. Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. J'ai un cœur qui bat à sa façon, etc. » Et 7 ans plus tard, Mitterrand lui avait dit « Oui, vous êtes en train de me refaire le coup de l'homme vieux, etc. » C'est entre-temps quand même que vous soyez devenu l'homme du passif.
Les dialogues reconstitués en direct.
Mais non, mais c'est des
Laurent
phrases.
Gérard n'a qu'à bien se tenir.
C'est des phrases célébrissimes que je vous donne là. C'est notre histoire. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Nous sommes en 1980. Nous sommes le 10 mai 1980 aujourd'hui.
Nous avons pris la machine à remonter le temps. Alors, j'ai retrouvé la phrase exacte, la punchline de François Mitterrand dans le débat contre Valéry Giscard d'Estaing. Il lui dit ceci, j'ai tendance à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que, dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Et là, c'était 1-0. Là, il avait crucifié Valéry Giscard d'Estaing.
C'est l'une de vos meilleures imitations, je crois. Non, mais c'est vrai, François Mitterrand, vous la tenez pas mal. Hein.
Béatrice, parlez-nous. Vous avez 56 ans, vous êtes de 64, Béatrice ?
Je suis de 1965. J'avais 16 ans du début, du mois de janvier 65. J'avais 16 ans, moi, lors de l'élection de François Mitterrand.
Vous étiez en seconde, alors ?
Oui, j'étais en seconde. Je me souviens évidemment, pour nous, enfin en tout cas dans le cadre de ma famille, c'était plutôt très joyeux. Voilà, nous espérions depuis longtemps. Je fais partie d'une classe ouvrière. Mes parents étaient ouvriers et puis traditionnellement, de mes grands-parents, plutôt à gauche, voire gauche-gauche, hein, quand même. Je viens du 93 avec une éducation, dans les banlieues rouges, où je ne regrette pas d'avoir été éduquée, élevée dans ces banlieues rouges que l'on appelait comme ça, étiquetée malheureusement un petit peu communiste. Moi, lors de mon passage, je me souviendrai toujours de mon passage de l'oral de bac à Paris dans des lycées prestigieux où j'ai eu comme remarque, il y a les banlieues rouges qui débarquent. Et ça, je l'ai mal vécu, je l'ai mal pris. Parce que il y avait quand même chez certains intellectuels c'était pas terrible que les enfants d'ouvriers viennent dans ces lycées parisiens élitistes et moi la gauche au pouvoir c'était plutôt pouvoir accéder que ces jeunes issus des milieux pas favorisés puissent accéder à une culture égale pour tous.
Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours de gauche ?
Aujourd'hui, je suis toujours de gauche. Évidemment, je ne suis pas angéliste. Hein.
Mais vous êtes, vous votez plutôt Parti Socialiste ou une autre famille de politique de gauche ?
J'ai voté Parti Socialiste. Je vote aussi une autre famille de gauche, France Insoumise.
Et c'est ça qui est étrange. Vous trouvez pas que la France Insoumise se détourne des valeurs universalistes et laïques ? Ou laïcarde, comme vous le voulez, la gauche républicaine. C'est pas du tout, mais semble-t-il, la gauche de François Mitterrand, la France insoumise.
Non,
puisqu'elle tourne
pas
le dos précisément à ses valeurs universalistes. Hostile aux religions, on voit une forme de complaisance aujourd'hui de la France insoumise avec les religions.
C'est vrai, vous avez raison. Ça, moi, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que je suis restée laïcarde. Je suis très. Mais bon, je ne suis pas fermée non plus. Donc, j'ai un fils qui fait des études doctorantes sur l'aspect religieux et laïcité, et on en parle beaucoup avec lui. Et c'est vrai qu'il m'ouvre les yeux aussi, mais moi je reste quand même profondément, je pense que l'école de la République amène quand même cette culture au sein des populations non privilégiées. Or actuellement, elle est vraiment en panne. Et c'est pour ça que je suis un petit peu, je reste quand même très très branchée gauche, mais oui effectivement, sauf que le Parti Socialiste actuellement ne nous offre pas de perspective réelle, enfin il est complètement à bout de souffle, etc. Mais je reste vraiment ancrée sur cette école de la République qui doit permettre à chacun de pouvoir accéder à la culture et que ce n'est pas l'argent qui va aller à l'encontre du mérite, en fait, parce que actuellement il y a tellement d'écoles privées qui vous offrent tout un réseau. Si vous n'êtes pas dans ce réseau, vous aurez du mal à accéder à un travail, même si vous êtes brillant à l'école. C'est compliqué quand on n'a pas de tout. De pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Et c'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle, je pense que la France est à l'arrêt. Parce qu'on se prive de talents qui existent dans les banlieues, qui existent dans les milieux pas favorisés. et qui, normalement, peut accéder à cette culture de par l'école de la République. Et la multiplicité des écoles privées à l'heure actuelle biaise un peu tout ça. On ne permet plus à l'université, qui est quand même accessible à tous, de pouvoir offrir des postes à responsabilité. Et moi, c'est cette France à l'arrêt qui me pèse beaucoup.
Eh bien, merci Béatrice. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'une vie a passé, 40 ans ont passé. Généralement, ceux qui étaient déjà adolescents dans les années 80 sont a priori plus vieux que ne l'étaient leurs parents le 10 mai 1981. C'est une tranche de vie, 40 ans, bien sûr, qui a passé. Et Béatrice incarne cette gauche, j'ai envie de dire cette gauche romantique, cette gauche hugolienne, cette gauche qui croyait au lendemain qui chante, cette gauche qui allait changer la vie, cette gauche qui était héritière des congés payés de 36. C'est cela dont nous parle Béatrice, et cette gauche effectivement semble avoir disparu corps et bien. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Viens, viens, viens con me.
Ça vous plaît, hein?
1980, toujours ça?
Absolument, Paolo Conte.
Paolo Conte. Qu'est-ce qu'il y a encore en cette année-là?
Il y avait Joueur de blues, Michel Jonas. Il y avait aussi Dépêche Mode. Vous voulez que je continue? Je peux, hein?
Non.
Let's Groove Tonight?
Ah oui.
Il faut m'arrêter, hein, sinon je continue.
Alors je vous arrête. Voilà. Nous sommes avec Ludovic.
Ouais.
Nous sommes avec Ludovic qui va pouvoir effectivement nous parler de cette journée si particulière. Vous avez 41 ans, Ludovic, donc vous n'avez pas connu par définition.
C'est ça. Moi, j'avais un an en fait.
Bah oui, mais là vos souvenirs sont légers, j'imagine.
Ouais, mais pas si léger que ça, parce que moi, mes parents, ils étaient pas très contents.
Ah bon?
Non, c'est des gens de droite, et pourtant, ils sont fils d'ouvriers, hein, mais voilà. Et ils m'ont toujours dit que la seule chose positive qui sortait des années Mitterrand, c'était la musique.
Donc, les radios libres. Effectivement, les radios libres, ça a été un bouleversement. Avant, il y avait que les radios dites périphériques. Mmh. Il y en avait 4 ou 5. Là encore, les gens ne se rendent pas compte. Moi, je me souviens très bien de cette période-là. Ça a été une explosion. On écoutait de la musique sans arrêt. J'étais à Nantes à l'époque. Il y avait Radio 100 qui était là et qui était, mais dans la ville, tous les Nantais parlaient que de ça. Radio 100, ça a été un succès incroyable.
Après, moi, je pense que la situation aujourd'hui de la France, dans l'état où on l'a aujourd'hui, moi, je pense que c'est pleinement à cause des années Mitterrand, du laxisme et de tout ce qui a été fait pendant ces années-là.
Mais précisément, par exemple, Ludovic.
La crise, par exemple. Les débuts de la crise, ça a commencé pendant les années Mitterrand.
Oui, mais elles sont européennes, elle est européenne, la crise.
Oui, peut-être, certes, mais le trou qu'il y avait en France... Il a commencé bien sous un président. Il a commencé sous Mitterrand. Hein, voilà, ouvrir les vannes comme ça et distribuer ce qu'on appelait la gauche caviar.
Voilà. Alors la gauche caviar, c'est un peu plus tard.
C'est un peu plus tard.
C'est vraiment le deuxième septennat. Parce que là encore, ouais, c'est la gauche historique. C'est-à-dire que c'est des gens comme Pierre Perregoua, c'est Pierre Mauroy, c'est justement des gens... les ouvriers votent à gauche, les familles modestes votent à gauche, et après elles partiront justement, ces familles modestes, vers le Rassemblement National, quoi. D'abord vers le Front National et le Rassemblement National. Mais voyez, là, c'est les leaders qui représentent la gauche, parfois même ont commencé à la mine, si j'ose dire.
Mais tout à fait. Mais aujourd'hui, moi, je suis petit-fils de mineur. Aujourd'hui, il y a plus personne. Il y a, à part Martine Aubry dans le Nord, je trouve plus mes mots, le ministre de la Culture, Jacques Lang, Elisabeth Guigou, tous ces mammouths là de la gauche aujourd'hui, il y a personne qui les incarne.
Ben oui, mais parce qu'ils ont 40 ans de plus.
Benoît Hamon. Ah oui. Qui va représenter la gauche. Mais c'est un pantin, ce mec, un clown.
Faisons attention à ce qu'on dit, parce qu'on est sous le coup de la diffamation. Donc je peux retirer ce que vous avez dit. Les mots sont un peu forts.
Pas du tout. Hein, quand on voit.
Alors, vous dites un pantin.
Monsieur Hollande. Alors lui, il a enfoncé la, la gauche, lui, l'a enterré carrément, quoi.
Non, mais il y a une vraie rupture entre Jospin et Chevènement. Et à cette époque-là, en 2000, la gauche républicaine a disparu. Il nous reste un dernier auditeur, c'est Gérard. Je vous propose de prendre Gérard qui était... Vous étiez à Nantes en 81, Gérard ?
Oui, bonjour. Non, en 80, je suis à Nantes, mais en 80, j'étais à Brest. Je venais juste d'avoir 21 ans. J'avais donc le droit de voter, puisqu'à l'époque, c'était 21 ans pour les présidentielles. Et j'ai voté Mitterrand avec plein de copains. Moi, je commençais à travailler. J'avais fini mon cycle étudiant. J'ai commencé à travailler. J'ai vu tous ces mecs qui trimaient dans les usines. Et la gauche représentait l'espoir pour les ouvriers, pour les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et la droite de l'époque, quand on avait 21 ans, hein, qu'on a plein d'espoir, qu'on est jeune, la droite est un peu vieillissante. Jusqu'à ça, c'était pas tellement représentatif de la jeunesse. Donc j'ai voté à gauche à cette époque-là, j'ai voté Mitterrand. On était super contents avec les copains quand il a été élu. J'ai jamais voté à gauche depuis, mais j'en ai gardé un super souvenir. Et si c'était à refaire aujourd'hui, j'aurais fait de la même façon, parce que c'était il y avait une vraie gauche à l'époque, il y avait aussi une vraie droite d'ailleurs, avec des gens qui représentaient vraiment, je pense qui avait quand même foi en ce qu'il faisait.
C'est vrai, une sincérité, une foi à cette époque-là, qu'incarnaient d'ailleurs des gens comme Pierre Mauroy, qui était vraiment extrêmement représentatif de ce qu'était la gauche à cette époque-là. Merci beaucoup Gérard, c'est l'heure du débrief, il est 14h23 avec Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Soutenez-vous la nouvelle tribune des militaires? Allez-vous la signer? Elle est lancée cette fois par des militaires d'active. Oui, de nouveau, la guerre civile couve en France, écrivent les auteurs. Une prise de parole soutenue par Raphaël.
Je suis tellement d'accord sur le fond que pour ne rien vous cacher, je l'ai signée, cette pétition. Ces gens des banlieues qui subissent, ils subissent deux fois. Ils subissent par des dégradations, des vols, et ils subissent parce qu'ils ont interdiction de parler. Ces racailles qui peuplent les banlieues et qui sont le cancer de notre société, il faut le dire.
Êtes-vous inquiet pour le pays? Y a-t-il une augmentation de la violence? Oui, pour David au standard.
Quand vous habitez dans des cités, quand vous rentrez du boulot, une petite bande vous dise tout simplement de baisser les yeux pour rentrer chez vous, alors que vous avez travaillé 8 heures et que ces gens-là sont restés dans un fauteuil pour regarder s'il y a des policiers qui passent ou bien pour vendre leur merde, on va être très clair. Dans un État français où M. Macron était là pour défendre la veuve et l'orphelin, je pense qu'à ce jour, il n'a pas fait grand-chose.
Un peu de culture générale dans l'émission avec...
L'info pour briller au dîner.
Le mot limogé vient, vous savez de quoi il vient? Il vient précisément de l'armée, me semble-t-il. C'est qu'un général avait été envoyé à Limoges, parce qu'on l'avait mis en dehors de l'armée, et... Le mot de Limoges était devenu en adjectif limogé.
Et puis, mesdames, messieurs, une question.
Où étiez-vous il y a 40 ans?
Oui, où étiez-vous le 10 mai 1981?
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Isabelle avait 17 ans, elle s'en souvient bien.
Moi, la première image, c'est mon père en apnée devant la télévision quand El Kabbach annonce François Mitterrand élu. Tout juste, il fallait pas appeler les pompiers avec la tente à oxygène. Ma mère en pleurs, et je vous prie de croire que c'était pas des pleurs de joie.
Jean-Michel avait 22 ans, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été déçu.
Vous avez voté pour qui?
Giscard.
Très heureux de cela.
Oui.
Très bonne imitation, Pascal. Et forcément, nous sommes obligés de nous replonger dans l'ambiance de l'année 1981.
Alors, vous savez ce qu'on écoutait, par exemple, en 1981?
Une proposition, Greg Caranoni?
Moi, je sais. On écoutait la danse des canards.
C'est la danse des canards qui, en sortant de la main, se secouent le bas des reins et font coin, coin.
1981, la période aussi des booms.
Ah ben voilà, et on dansait là, on allait demander, parce que les jeunes filles de cette époque-là s'appelaient Véronique, Nathalie, Isabelle, Dominique.
Pascal,
il y en avait.
Ah, la drague, Mehdi, l'année 80, faites-nous rêver, Pascal.
On disait, voilà, Véronique, tu veux danser un slow avec moi?
Ah, vous disiez vraiment ça comme ça? Avec l'accent?
Slav. On partait en Angleterre l'été, c'était une période merveilleuse, un mois, sans nos parents, c'était à nous les petites Anglaises.
Il y avait le quart d'heure américain.
Ouais, ça c'est un truc, non, ah, ça n'existait pas, le quart d'heure américain.
Et comment draguer Pascal Pro sans à l'appui sur le terrain?
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Jeannot, attaque, ça marche. Accroche-toi, Jeannot. La nuit est à nous.
Oh, il est chaud, c'est Pascal. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte. 1980 oblige avec un tube cette année-là.
Merci beaucoup. C'était bien, c'était nostalgique et c'était émouvant parfois. Rendez-vous demain, Flavie Flamand, Greg ?
Bien sûr, elle se prépare, elle arrive, elle s'installe.
À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.